Chers frères et sœurs, le texte de la Bible est souvent bien paradoxal. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la première lecture, les Hébreux ont traversé la soif, la faim, l'angoisse. Et c'est quand ils reçoivent la manne que Dieu dit qu'il les met à l'épreuve. Le dénuement n'est pas une épreuve. La satiété, quand Dieu répond à nos désirs, c'est cela l'épreuve. Je te donne ce que tu souhaites. Quel terrible risque. C'est tout le sens de l'évangile et de la lecture, la première lecture de ce jour. Pourquoi ? Parce que le don que Dieu me fait, est-ce qu'il va me renvoyer au donateur ? Ou est-ce que, comme dit Jésus, vous avez été rassasié et vous avez été incapable de voir que c'était un signe, qu'il fallait un peu lever les yeux vers la main qui donnait le pain, et pas seulement vers cette croûte dorée qui vous était donnée ? Oui, ils sont plus intéressés par les dons de Jésus que par Jésus lui-même. Voilà pourquoi Jésus s'en va sur une autre rive. Il se déplace, comme pour dire, allez aussi vous, déplacez-vous un peu dans votre tête et dans votre cœur, changez de mentalité. Et nous avons à le faire aussi. Quand est-ce qu'on passera d'un rivage à l'autre? Notre désir est comblé, et cela nous suffit. Vous savez, à la fin des mariages, il y a une bénédiction qui dit « Et que votre bonheur ne vous éloigne pas de Dieu ». Voilà pourquoi le Seigneur, quand il nous enseigne le Notre Père, va commencer par ces trois premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Et puis, il continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et permettez simplement qu'on aille au texte grec, parce que la manière de traduire a pris une option, mais il y en a d'autres. Que dit le texte ? Donne-nous aujourd'hui le pain épiousios, le pain surnaturel, le pain supersubstantiel, le pain qui est au-delà simplement de ce pain de la terre, bref, ce pain venu du ciel, au sens plein du terme. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce pain venu du ciel ? Eh bien, c'est pas une simple consolation pour notre affectivité, c'est pas simplement un petit rayon de lumière pour notre intelligence. C'est Dieu lui-même qui se donne à nous, notamment dans l'Eucharistie. Et c'est ce que nous allons recevoir. Nous allons devenir des tabernacles tout à l'heure. Vous le savez bien, vous connaissez cette petite anecdote. Il y avait une bonne dame qui venait à la messe de Saint-Philippe Néri, et puis elle avait sans doute un gigot sur le feu ou quelque chose dans le four à surveiller, et elle partait toujours immédiatement après la communion, trop pressée qu'elle était. Et alors un jour, Philippe Néri avise deux de ses servants et leur dit « Allez, accompagnez-la avec deux cierges de chaque côté jusqu'à sa maison, elle verra bien ce que ça signifie. » Effectivement, elle s'est tapée une telle honte, la pauvre femme, qu'elle a compris qu'effectivement, en elle, il y avait quand même un hôte divin à qui elle devait quelques égards. Voilà. Mais c'est trop peu dire encore que nous sommes des tabernacles. Car Dieu, comme pain, se fait nourriture. Nous l'assimilons et il nous assimile. Son être va mêler ses fibres aux propres fibres de notre être. Si je puis dire, il va rentrer en composition avec nous. Il reste le saint, bien sûr, le séparé, mais il est tout mélangé à nous-mêmes. Et ça, c'est dans aucune autre religion. Les fibres de notre âme s'entrelacent avec sa grâce. Et qu'est-ce que vient nourrir en nous ce pain venu du ciel? Eh bien, il vient nourrir notre cœur. Notre corps, il a besoin de lipides, de glucides, de nourriture terrestre, bien évidemment. Notre sensibilité, elle a besoin d'affection. Notre esprit, il a besoin de culture, il a besoin de la vérité. Mais notre cœur, il a besoin de Dieu. Le cœur, c'est le lieu de Dieu, comme disent les pères de l'Église. Et si nous donnons autre chose que Dieu à notre cœur, nous l'empoisonnons. Si nous lui donnons un bien fini, nous le pervertissons. Ça s'appelle le péché. C'est donner du fini à ce qui est capable d'infini. Voilà, il faut toujours être vigilant aux nourritures que nous allons prodiguer à notre propre cœur. Voilà, ce pain du ciel, il vient nourrir ce cœur, ou pour le dire autrement, il vient nourrir une vie intérieure, un fluide intérieur qui nous fait vivre. Nous avons besoin de sang pour pouvoir nous déplacer, agir, etc., de lymphe qui coule dans notre corps. Et notre organisme spirituel, il a besoin de ce fluide tellement particulier qu'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est-à-dire cette vie de Dieu en nous, comme la sève dans un arbre. Et cette grâce, elle va rendre fort l'homme intérieur. Comme le dit saint Paul, l'homme nouveau. Un être qui n'a pas de sang, il s'anémie, il meurt. Un être intérieur qui n'a pas la grâce, il meurt lui aussi. Alors, comment se traduit cet homme intérieur vigoureux, fort? Eh bien, avec la constatation qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons davantage de facultés à modérer nos envies, nos passions, nos réactions immédiates. Nous apprenons à désirer Dieu et Dieu seul. On apprend, avec cet être intérieur plus fort, à aimer au-delà de nos répulsions et de nos attractions, à aimer comme Dieu aime. Alors c'est un travail de toute la vie, mais sans la grâce, sans cette grâce venue du ciel, c'est impossible. Voilà, nous aimons avec un autre cœur grâce à ce pain venu du ciel. Alors, chers frères et sœurs, à tous ceux qui nous disent, les chrétiens, c'est bien gentil, mais c'est des hypocrites. Ils vont à la messe le dimanche, et ensuite, ils font plein de péchés. Alors, on va pas les contredire, hein, mais on va leur dire, mais si vous saviez, qu'est-ce que ce serait si on recevait pas la communion, on serait 10 fois pire. Voilà. Mais cela dit, l'ordre normal des choses, c'est que l'Eucharistie nous transforme de l'intérieur, nous transfigure pour que notre présence au monde, elle soit différente. Notre visage, on croirait plus à leur sauveur s'il avait l'air un peu plus sauvé. Nos paroles, nos réactions, nous avons un comportement d'homme nouveau créé juste et saint dans la vérité, dit saint Paul. Il faut être un petit bout du ciel sur la terre. On n'a pas le choix. Et c'est merveilleux parce que si ça se passe, eh bien, là où nous sommes, on va changer l'atmosphère. Ce que nous dégageons, notre souffle, on pourrait dire, n'est plus empoisonné. Il va comme se confondre un peu avec celui de Dieu. C'est saint Jean de la Croix qui dit, eh bien oui, une âme unie à Dieu, elle va spirer l'Esprit Saint. Il est audacieux de dire ça. On répand l'Esprit Saint autour de nous. Et je pense que très concrètement, chacun d'entre nous, on a fait l'expérience de ces personnes avancées spirituellement, mais autour de qui l'atmosphère change. On se sent meilleur. On n'a plus envie d'être impur ou querelleur auprès d'elles. Il y a quelque chose de meilleur qui s'est installé. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est à nous de créer cette atmosphère, comme le dit de manière très synthétique Paul VI, c'est ça, la civilisation de l'amour. Nous sommes les artisans de ce changement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde, dit Jésus. Oui, très bien, il donne sa chair pour la vie du monde. Mais il y a peut-être un intermédiaire entre les deux, et c'est nous. Cette chair, elle rentre dans les chrétiens, et ces chrétiens transforment le monde et lui donnent vie. C'est dans l'ordre des choses, prenez et mangez. Alors certes, le Seigneur, il a un rayonnement immédiat dans son Eucharistie, dans son tabernacle, bien évidemment. Mais il veut passer par nous, que nous soyons à notre tour nourriture pour le monde, pour le transformer. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la dernière partie de la messe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est certainement pas le chant final, ni même la bénédiction, c'est toute la vie qui suit l'Eucharistie. Qu'est-ce que tu vas faire de cette Eucharistie? Comment tu vas la monnayer dans le monde? C'est ça la dernière partie de la messe. Ite missa est, c'est-à-dire la messe continue. Voilà, si notre rayonnement est réel, eh bien ceux qui sont loin de l'Église vont nous demander « Mais d'où ça vient ? D'où elle vient cette nourriture qui fait que ta joie est constante ? D'où vient qu'elle te transforme comme ça ? Man, où ? Qu'est-ce que c'est ?» Alors puissions-nous susciter cette interrogation dans le cœur de ceux qui nous entourent ? Juste une petite anecdote. Un frère, il y a un an, est parti évangéliser avec un mouvement d'évangélisation et qui nous écrivait, il était à Toulouse, « Nous voyons Dieu à l'œuvre. C'est extraordinaire. J'ai rencontré hier un musulman en recherche de la vérité. Il s'est mis à genoux devant le Saint-Sacrement et il a pleuré. Il demande qu'on prie pour lui. » Voilà. Mais avant qu'il y ait eu cette rencontre, il a fallu ce frère, avec un visage eucharistique, si vous me permettez l'expression, pour donner à cet homme le désir de remonter à la source, vers celui qui a rejoint son cœur en plénitude. Marie, c'est celle qui s'est laissée totalement reconfigurer par l'Eucharistie. Sur son visage, eh bien, on voit celui de son Fils qui se donne tout entier. Qu'elle nous enseigne donc à le recevoir pour l'imiter jusqu'au bout.